Plusieurs milliers de visiteurs ont participé à la fête du sport au Mont d'Or. Jeunes et familles ont fait le déplacement pour aller découvrir toutes les activités sportives proposées par la commune. Reportage dès le début de ce journal. Richard Poiririwa a été désigné nouveau président du Sénat coutumier. Il entame un mandat d'un an à la tête de l'institution et compte s'inscrire dans les pas de ses prédécesseurs. Le coup d'envoi des soldes d'hiver. Pendant 4 semaines, les Calédoniens vont pouvoir profiter de promotions dans un contexte économique toujours difficile. L'occasion de faire des bonnes affaires. La France échappe de justesse à un nouvel avertissement sur ses finances publiques. L'agence de notation Fitch a maintenu le A+ de la dette française. Un répit presque miraculeux pour le gouvernement. C'est la rentrée politique en métropole. Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, sera présent à la foire de Châlons en Champagne. Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, prononcera un discours aux journées du campus socialiste à Blois. Et puis le sport et le football en Calédonie avec les demi-finales de la Coupe de Calédonie. La Escounier s'est qualifiée aux dépens de la SSR d'Imbéa. En ce moment, Horizon Sport rencontre le FC Bélep Mondor. Bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal. La fête du sport du Mont d'Or, c'était l'événement du jour pour une commune qui a offert une belle vitrine à l'ensemble de ses associations afin de proposer un large choix d'activités aux nombreux visiteurs qui ont fait le déplacement. L'opération se déroulait au complexe sportif et culturel Victorin Boéwa de Boulary, Michael Juneski.
L'ensemble du site s'était transformé en immense parc des sports pour offrir toute leur place aux associations et aux structures sportives de la commune. Près d'une trentaine de clubs avaient pris leur quartier sur le stade, dans les salles, la piscine, les cours de tennis et terrains de pétanque et sur la totalité des infrastructures du complexe de Boulary. Il y en avait pour tous les goûts, des classiques, foot, basket, rugby, handball, aux disciplines plus insolites, ambiance.
Je viens d'essayer du parcours.
Ninja Warrior.
Un peu dur, j'ai envie de refaire.
Moi je suis Stéphanie, je suis la gérante de Ultimate Arena. Alors nous on propose un échantillon en fait de notre parcours, c'est pour donner un avant-goût de ce qui est proposé. En salle.
C'est trop honnête carrément, on adore ça, on fait stand par stand pour voir ce qu'il y a et puis voilà.
Je suis rider en dog start, puis un peu tout le support foil, kite, wing et compagnie. C'est vrai que le dog start c'est une discipline assez neuve en Calédonie et ça fait plaisir de pouvoir montrer un nouveau support et puis essayer de démocratiser la discipline.
À la découverte de la boxe.
C'est ça un peu les bases, on va pas les taper très fort, placement des jambes.
J'ai des amis autour de moi qui font de la boxe, etc. Moi c'est taekwondo, du coup ça n'a rien à voir avec la boxe.
Donc le kudo en fait c'est le tir à l'arc japonais. On utilise des arcs relativement grands. Pour moi qui fais 1m85, l'arc doit faire 2m33.
Ulrich Cabanier, je suis initiateur en motocyclisme. C'est un très grand plaisir d'être là, de partager ma passion. Ils peuvent s'initier à différentes disciplines et choisir une discipline qui leur plaît. Quoi.
Pas des sports auxquels on a l'habitude de venir pratiquer. On est plus sur un sport collectif comme le basket. Donc c'est intéressant aussi de s'ouvrir et de voir d'autres personnalités aussi.
La fête du sport du Mont d'Or, qui était aussi l'occasion de mettre sous le feu des projecteurs les bénévoles et toutes les personnes qui œuvrent tout au long de l'année pour la jeunesse et la pratique d'activités. Le défilé des associations sur le thème des Jeux Olympiques aura vu le club de gymnastique gagner le concours avec à la clé une aide de 100 000 francs pacifiques.
Je m'appelle Justine, je suis l'entraîneur du Mont d'Or Gym. Et ben, c'est une fierté et je suis très investie dans ce club depuis déjà 4 ans et les filles sont également très investies. C'est un de passion et voir ses propres gymnastes suivre cette énergie, c'est génial.
C'était un moment important pour la municipalité du Mont d'Or qui tenait à afficher son soutien aux acteurs impliqués dans le sport. Nous en avons parlé lors de notre table ronde sur le stand RRB ce midi en direct de cette fête du sport, notamment en compagnie du maire Nina Julier qui est aussi membre du gouvernement chargé des sports.
Toutes les valeurs que porte le sport, la Nouvelle-Calédonie, elle a une belle opportunité là, c'est qu'elle va s'inscrire dans une séquence avec beaucoup de compétitions très emblématiques. L'année prochaine, les Jeux du Pacifique. Ensuite, on a les Jeux Olympiques de 2032 à Brisbane. La Nouvelle-Calédonie est pas loin et elle pourrait, si elle se débrouille bien, bénéficier de plein de choses, notamment de financement pour rénover ses infrastructures. Elle pourrait devenir la base arrière en fait de l'équipe de France. Donc on pourrait bénéficier du rayonnement des Jeux Olympiques avant 2032, pendant les Jeux Olympiques et après. Et puis en 2035, il y a les Jeux du Pacifique et on veut qu'ils soient organisés en Nouvelle-Calédonie. Donc on s'inscrit vraiment ans là, sur une séquence de 10 ans où on va avoir des belles opportunités à saisir et il faut qu'on s'en empare pour justement amener nos jeunes à faire du sport, parce que l'objectif de tout ça, c'est de faire en sorte que nos jeunes soient bien, c'est de faire en sorte que nos jeunes participent à un projet de société, qu'ils se respectent les uns les autres, qu'on crée des moments d'unité, des moments de fierté collective. Et c'est en utilisant ces compétitions, ces champions, voilà, ces grandes figures du sport, que finalement on amène toute la population vers l'excellence. Donc pour moi, c'est vraiment l'image d'une société. Donc tous à 100% derrière le sport.
Une table ronde à laquelle participait également Anthony Tran, adjoint en charge des sports au Mont-d'Or, Leslie Filitou-Lagache, championne d'athlétisme, Renato Portera, président du VCC Mont-d'Or, ou encore Ludovic Langagné, père d'un jeune rugbyman et impliqué comme papa bénévole dans le club du Mont-d'Or. Des milliers de visiteurs ont fait le déplacement, notamment des jeunes, des familles, pour découvrir toutes ces activités proposées sur la commune. La fête du sport du Mont-d'Or se déroulait de 8h à 15h au complexe sportif de Boulary.
Richard Poiry-Riwa est donc le nouveau président du Sénat coutumier. Ludovic Boula de l'ère Djéhou a passé le flambeau à l'un des deux sénateurs de l'ère Païchi Tchemoui. Cette passation coutumière de la présidence aura été le temps fort de la 26e édition du congrès du Pays Kanak, qui s'est donc achevé dans l'après-midi à Nouville. Richard Poiry-Riwa qui souhaite s'inscrire dans la continuité de ses prédécesseurs.
J'ai pas de priorité personnelle, c'est une continuité. Donc c'est tous les dossiers qui sont en cours. On va essayer d'amener là. C'est vrai qu'il y a des priorités, mais ces priorités-là, on doit faire le point pour pouvoir justement, au sortir de ce congrès. Et le problème, c'est que maintenant, il faut amener les actions. Le temps de la parole, c'est bon. On continue à se parler, mais maintenant, il faut passer à l'action. Et c'est pour ça, avec les institutions, État et local, on essaye de travailler ensemble pour pouvoir essayer d'amener les choses de l'identité canadienne, tel que ça a été défini par l'accord de Nouméa. Voilà. Le cadre, c'est l'accord de Nouméa, ni plus ni moins.
Les propos recueillis par Kalinda Boakou, la désignation du nouveau président du Sénat coutumier s'est déroulée en présence notamment du haut-commissaire Jacques Billon, du général Soubrier, commandant supérieur des Fanques, et des consuls de Nouvelle-Zélande, d'Australie et du Vanuatu. C'est parti pour les soldes d'hiver. Pendant 4 semaines, les Calédoniens vont pouvoir profiter de promotions avec des rabais qui atteindront parfois jusqu'à 80%, en tout cas dans certains magasins. Dans un contexte économique qui est toujours difficile, c'est l'occasion évidemment de faire de bonnes affaires. Et les clients ne s'y sont pas trompés. Ils étaient nombreux dès l'ouverture ce matin dans les commerces du centre-ville.
Je commence à faire les boutiques en ville et là j'ai trouvé un maillot de bain, des paires de chaussettes qui sont vraiment bien soldées. Le maillot de bain est à 1500 francs au lieu de 4600 francs et trois paires de chaussettes Adidas pour 500 francs.
C'est très bien, j'aime bien les prix, c'est raisonnable. On voit qu'il y a beaucoup de changements au niveau des prix et que ça permet à chacun de se faire plaisir. En plus, ils ont bien choisi la période aussi pour faire les soldes. Ben là, on cherche des maillots, des shorts, chaussures pour les enfants et pour nous aussi. Là, on a des t-shirts à 500 qui sont pas chers avec des... Mais on a même des petits shorts à 100 francs, bien soldés, ouais. Pour un grand magasin comme ça.
C'est pas mal. Parce que là, on est venu chercher des chaussures pour mes enfants. Mais là, au lieu de 8000, j'en ai pour 5000. Ça vaut beaucoup.
Pour l'instant, écoutez, c'est de bonheur, c'est pas mal.
Qu'est-ce que vous avez trouvé qui vous fait plaisir ?
Sweatshirt pour monsieur. Mais moins 50, c'est intéressant. Voilà.
Et les soldes d'hiver qui vont se poursuivre jusqu'au dimanche 27 septembre. Bilan positif pour la première édition du festival Kaléidoscope à l'UNC. Plus de 200 élèves de 5 écoles de Nouméa ont fréquenté hier les différents ateliers proposés autour du thème « Écouter pour apprendre, partager et transmettre ». Et aujourd'hui, c'est le grand public qui a répondu présent.
Je pense que c'est un très beau lieu pour pouvoir mêler science et art et que c'est ouvert au plus grand nombre. Du coup, ça permet à la fois aux enfants, aux adultes. J'ai vu tous les projets. J'ai été sur tous les stands et il y a vraiment de tout. Il y a des sciences fondamentales en biologie, il y a également des sciences humaines et sociales, il y a aussi des sciences dans le juridique. Du coup, c'est vraiment très intéressant à voir se mêler toutes ces thématiques qui existent ici sous forme d'art. Donc, c'est beaucoup plus parlant et beaucoup plus compréhensible. Là, j'étais en train de regarder la bande dessinée qui a été effectuée par l'association des doctorants néo-calédoniens. C'est beaucoup plus parlant comme ça, sous forme de jolies images avec des petites bulles de bande dessinée.
C'est intéressant, il y a plein de choses qu'on apprend. J'ai bien aimé le truc de la cloche avec le fait qu'il n'y ait plus d'air, eh bien, le son ne circule pas, quoi. Et puis le bruit des grenouilles, j'ai aimé aussi.
J'ai fait un peu le tour des stands, c'est très instructif. Plus facile à comprendre que juste un titre. Et vraiment, c'est beaucoup d'images, beaucoup d'animations, beaucoup de vulgarisation et c'est beaucoup plus accessible.
Et le bilan de ces deux jours avec Charlène et Alice, chef des bénévoles de l'organisation du festival Kaléidoscope.
Beaucoup de bénévoles, beaucoup de public venu. Hier, les scolaires, vendredi, et aujourd'hui, le public de Nouméa, du Nord, du Sud.
Combien d'élèves?
Au moins 200. Amélie Cosnier, René Fong, Antonelle Charbonneau, Bichon,
Moucher,
chaque école.
Ils ont beaucoup aimé.
Kawejuka,
voilà, c'est ça que les enfants ont beaucoup aimé. Et d'ailleurs, on remercie les mamans parce qu'ils sont partis tous, ils ont fait les tuniques. On a montré comment ils foutent. Et les mamans ont cousu. Ils sont tous partis avec leur tenue.
On a eu Otacité, où il y a eu des expérimentations tout autour de la lumière avec le Fab Lab. Il y a eu un atelier tressage. Là, par exemple, au forum sur l'Agora, on a Loïs Saolo, qui est un étudiant de l'UT, qui a fait une BD dessin animé sur la lecture rouge, voilà. Ensuite, on a la Fée des Sciences avec Frédéric Bailly, qui nous explique les effets sonores, les couleurs. Et après, nous avons pas mal Love Culture présent.
Et le festival Kaléidoscope à l'UNC a refermé ses portes à 16h. Le GC de son côté, l'école de gestion et de commerce, ouvrait ses portes ce matin. Comme chaque année, cette journée marque le coup d'envoi des inscriptions pour la rentrée 2027. Futurs étudiants, lycéens et parents sont venus nombreux découvrir l'école, ses programmes et ses débouchés et rencontrer la direction, les équipes pédagogiques et les étudiants. Pour David Leclerc, le directeur des écoles de la CCI, ces journées portes ouvertes ont surtout permis de répondre aux questions des familles.
C'est un vrai moment d'échange, c'est un moment où les étudiants, les futurs candidats en tout cas, s'interrogent sur et leur parcours à venir, mais aussi sur ce qu'on propose à l'EGC. Donc c'est un vrai moment important pour leur donner ces informations-là, savoir ce qu'ils vont y faire. Et ça, c'est rien de mieux que les étudiants eux-mêmes pour transmettre ces informations. Là, aujourd'hui, on a plus d'une quarantaine d'étudiants qui sont mobilisés pour accueillir le public, pour le guider et surtout réaliser des ateliers pour découvrir de manière ludique et par l'échange ce qu'on peut proposer à l'EGC. L'objectif pour nous, c'est de donner un maximum d'informations à ceux qui envisagent de nous rejoindre et de montrer que l'école de gestion et de commerce de Nouvelle-Calédonie, qui existe depuis 40 ans maintenant, elle est accessible à tous, quel que soit le profil, quel que soit le parcours, parce que c'est une école qui fait monter en puissance sur différents domaines, qui est très généraliste et donc qui permet de trouver sa voie et de se spécialiser par la suite.
Un cursus spécialisation, stage en entreprise, les visiteurs étaient nombreux à venir s'informer sur les options proposées pour la rentrée 2027.
Manori, et je suis au lycée La Pérouse, en terminale générale. Je suis là parce que c'est une école qui m'intéresse pour l'année prochaine. Du coup, je viens me renseigner un peu sur les différentes possibilités.
Samuel, c'est juste pour voir ce qu'ils proposent, parce que comme là, je suis en deuxième année BTS ou La Pérouse, c'est commerce international. J'ai envie de savoir ce qu'ils proposent ici pour continuer mes études pour l'année prochaine et acquérir plus de compétences. Quoi. Plus alternance, après c'est à voir selon les moyens financiers.
Victoria, et je suis venue aujourd'hui pour accompagner ma copine et aussi pour me renseigner parce que moi j'aimerais bien faire du commerce.
Et les inscriptions à l'école de gestion et de commerce sont ouvertes jusqu'au 30 septembre. Il est 17h59, c'est-à-dire quasiment 18h. On va marquer une première pause dans ce journal. Vous restez avec nous dans un instant. L'actualité en métropole et dans le monde.
Tous les vendredis midi, c'est au Sobuco au Pizza and Pasta. Un plat généreux, mijoté avec amour, servi avec ses spaghettis. Fondant, savoureux, réconfortant. Le vrai rendez-vous gourmand de fin de semaine. Tous les vendredis midi, ne cherchez plus. C'est au Sobuco au Pizza and Pasta. Réservez votre table au Pizza and Pasta au 24 30 70.
Équipe Alpha, vous êtes où ?
On est au Village Automobile.
Vous avez trouvé quoi ?
Les soldes, chef ! Les soldes du Village Automobile, avec des prix incroyables ! 11 grandes marques sur un seul site. Des SUV, des 4x4, des pick-up, des citadines, neufs ou occasion. Et jusqu'à 50% sur les pièces d'origine constructeur.
Tenez la position, j'arrive avant que tout soit vendu.
Du 29 août au 5 septembre seulement, rendez-vous aux soldes du Village Automobile PK4 à Nouméa ou chez NC Motors Saguenay.
Offre valable dans la limite des stocks disponibles.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Et sans doute un ouf de soulagement pour le gouvernement. La France échappe de justesse à un nouvel avertissement sur ses finances publiques. L'agence de notation Fitch a maintenu le A+ de la dette française, dette jugée de qualité moyenne supérieure accompagnée d'une perspective stable. Un répit presque miraculeux pour la France au moment où les indicateurs macroéconomiques et budgétaires de l'économie ne cessent de se dégrader. Barthélémy Philippe pour Europe 1.
Les analystes de Fitch en ont bien conscience, la note reste inchangée et pourtant les commentaires de l'agence sur les perspectives budgétaires de la France sont particulièrement négatifs, explique Éric Dor, économiste à l'ISEG.
Fitch, qui prévoyait un déficit public à 4,9% du PIB en 2026, nous dit maintenant que le déficit public sera plutôt de 5,2% et qu'il atteindra même 5,5% en 2027, c'est une forte détérioration. Fitch nous dit aussi réviser à la hausse sa projection de dette publique qui atteindrait 122,7% du PIB d'ici 2028.
Pour justifier sa décision de maintenir le A+ français, Fitch met en avant la diversification de l'économie, la qualité des institutions bancaires ou encore l'appartenance à l'Union européenne. Quoi qu'il en soit, les marchés financiers n'ont pas attendu le verdict de l'agence pour durcir les conditions de crédit appliquées à l'Hexagone. Pour refinancer sa dette, la France emprunte à plus de 4%, des taux inédits depuis près de 20 ans.
Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Ces sujets autour de la dette et des finances publiques qui ne vont pas manquer évidemment d'alimenter les débats de la campagne présidentielle. Campagne qui va continuer à battre son plein tout le week-end avec la rentrée politique des principaux leaders de parti, à l'image d'abord de Jordan Bardella qui sera présent dans quelques heures à la foire de Châlons en Champagne dans la Marne. Première véritable apparition politique pour le président du Rassemblement National après un été particulièrement discret, Jordan Bardella, qui doit désormais définir son rôle aux côtés de Marine Le Pen dans la bataille pour 2027. Arthur Delaborde.
Un bain de foule pour tourner la page. À Châlons, Jordan Bardella retrouve ce matin un exercice qu'il affectionne, les allées de la foire, les poignées de main et les selfies. Un retour au contact après un été beaucoup plus compliqué. Jordan Bardella avait tout préparé pour 2027, déclaration de candidature, slogan, affiche. Le 7 juillet, Marine Le Pen lui annonce finalement qu'elle sera candidate. Le coup est rude et il laisse des traces. Son conseiller spécial, François Durvie, a annoncé avant-hier son départ du RN, un départ qui affaiblit la ligne économique plus libérale portée dans l'entourage de Jordan Bardella. Mais le président du parti, lui, reste incontournable. Très populaire chez les militants, il est l'un des principaux atouts de Marine Le Pen. Il a perdu sa campagne présidentielle, pas son avenir politique. À Châlons, Jordan Bardella affichera un autre horizon, Matignon.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. C'est la rentrée politique également à gauche, avec notamment la deuxième journée du campus socialiste à Blois, dans le Loir-et-Cher. Une journée qui sera marquée par le discours de son premier secrétaire, Olivier Faure. Olivier Faure qui est sous pression au moment où plusieurs cadres socialistes ont choisi officiellement de soutenir Raphaël Glucksmann pour la primaire de gauche. Le patron du Parti socialiste n'a pour l'heure pas encore annoncé ses intentions sur une éventuelle participation, à la différence de François Hollande qui, lui, ne passera pas par la case de la primaire. L'ancien président de la République qui n'a toutefois pas renoncé à revenir à l'Élysée, mais qui tient plus que tout à rester au-dessus de la mêlée.
C'est bien qu'ils essayent de trouver une solution pour départager les candidats et candidates éventuels, mais moi, je ne m'inscris pas dans ce processus-là, parce que j'ai été président, parce que je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément ma place d'être dans une primaire, parce que j'en sais aussi les risques. Hein. Les risques, c'est nom du rassemblement, quelquefois, de nous diviser. Donc je laisse faire ce processus, puis on en reparlera après avec la candidate ou le candidat qui sera sorti vainqueur de cette pétition.
François Hollande au campus socialiste à Blois. Encore un mot de l'actualité en métropole. En bref, à Caen, le conducteur soupçonné d'avoir foncé volontairement mercredi soir sur un groupe près de la gare a été présenté à la justice. Deux personnes avaient été tuées, neuf autres blessées. Une information judiciaire a été ouverte pour assassinat et tentative d'assassinat. Le suspect est un Russe d'origine tchétchène, un homme de 26 ans qui n'était pas connu des services de renseignement. Le parquet exclut tout acte terroriste à ce stade. À l'étranger, à Ceuta, la colère des habitants et des commerçants ne retombe pas. De nouvelles manifestations violentes ont eu lieu tôt ce matin pour nous dans l'enclave espagnole, avec en toile de fond toujours cette crise migratoire sans précédent qui a débuté il y a un mois. Si l'immense majorité des 80 000 migrants arrivés du Maroc a fait le chemin inverse, entre 3 000 et 10 000 d'entre eux errent encore dans les rues, et cela pour conséquence l'effondrement du secteur touristique, moteur de l'économie locale. Caroline Baudry pour Europe 1.
Pour cette vendeuse dans une boutique de vêtements, pas question de laisser filer un client. Elle qui a dû baisser le rideau deux jours lors de l'entrée massive de migrants illégaux dans la ville. Quand elle l'a rouvert, les touristes avaient disparu.
Nos clients viennent du Maroc. Ce sont eux les touristes ici. Mais avec tout ce qu'il s'est passé, cette incertitude et la crainte de ceux qu'ils peuvent découvrir en arrivant ici, eh bien, ils ne sont pas venus. Ils ont pris des avions et des bateaux et sont allés directement en Espagne. Ça nous a énormément affectés.
Les quelques hôtels de Ceuta ont vu leur fréquentation chuter, ajoute la jeune femme qui s'en remet au gouvernement pour redresser la situation, tout comme Juan Maria qui vient chaque jour manifester devant la préfecture.
C'est toute l'économie de la ville qui a plongé. Il y a toutes ces boutiques qui ont fermé. Et puis celles qui ont dû payer pour embaucher un service de sécurité privé. Tout cela n'est pas possible.
Impossible pour les commerçants qui craignent aussi que l'image de destination paisible que s'efforçait d'entretenir l'enclave ne se soit effondrée. À Ceuta, Caroline Baudry, Europe 1.
À l'étranger encore, ce sont quelques 2500 personnes qui sont toujours portées disparues après les crues soudaines et dévastatrices qui ont frappé la région frontalière entre le Népal et le Tibet il y a trois jours. Selon le Quai d'Orsay, quatre Français au moins figurent parmi les disparus. Le dernier bilan provisoire de la catastrophe évoque près de 600 morts. Un mot également de cet accord pétrolier historique conclu entre les États-Unis et le Venezuela, le plus grand de toute l'histoire, selon le président américain, toujours mesuré. Il intervient près de 9 mois après la capture du président Nicolas Maduro par l'armée américaine. Investissement annoncé, plus de 100 milliards de dollars pour un potentiel de 65 milliards de barils de pétrole. La présidente par intérim, Delcy Rodriguez, remercie chaleureusement Donald Trump pour cet accord. Accord qui, selon elle, aura un impact significatif sur la renaissance du Venezuela. Fin de citation. 18h07, une dernière pause. Dans un instant, nous parlons sport et météo.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegale@rrb.nc ou au 25 46 46.
Tous les dimanches, retrouvez Canal Folie, votre émission dédicace avec l'OPT. L'OPT contribue chaque jour au développement et à l'aménagement du territoire pour simplifier le quotidien de tous les Calédoniens. OPT, le monde à portée de main.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Allez, nous ouvrons la page sport de ce journal. On va commencer avec le sport sur le territoire, avec du football et les demi-finales de la Coupe de Calédonie qui se jouaient ce samedi, Michael Juneski.
Et on sait désormais que la finale pour le titre opposera Horizon Sport à l'AS Cougnier. Cet après-midi, l'équipe de Cougnier est la première à avoir décroché sa place pour la finale. Le club de l'île des Pins l'a emporté face à l'AS Essor de Dimbéa sur le score de 2-0. Kenji Vandegou, l'entraîneur de l'AS Cougnier.
C'est une énorme fierté pour tout le club, pour tout l'île des Pins. C'est une finale, on s'est dit qu'on allait regarder cette équipe dans les yeux, parce que même s'il y a une division d'écart, ils ont montré que justement un match de coupe, ça jouait à 50-50 et ils sont bien rentrés dans leur match. On a su reprendre le dessus, marquer, mettre un peu de rythme et être dans leur camp plus souvent qu'eux en première mi-temps. On a marqué 2 buts. On a fait le travail en première mi-temps et après la deuxième mi-temps, on a réussi un peu à gérer. On a eu un peu de chance parce qu'ils ont aussi loupé un pénalty qui aurait pu relancer le match. Mais on est satisfait et puis c'est un gros soulagement et une grosse satisfaction. Ouais.
L'équipe de Dimbéa évolue actuellement en promotion honneur. Jouer une demi-finale, c'était déjà un grand moment pour tout le club, estime Jules Wakanumune, coach de l'Essor de Dimbéa.
Je suis déjà très très fier de mes garçons. Donc pour une première pour le club, tomber en demi-finale, c'est pas donné à tout le monde. Donc du coup, très très fier de mes garçons. Notre objectif premier, c'est la montée en Super League. Jouer contre des équipes de Super League, c'est tout un bonheur pour nous. C'est toujours un bonheur. Ça fait plaisir et puis on va travailler pour notre objectif premier du club.
L'autre rencontre du dernier carré a ensuite vu, en cette fin d'après-midi, Horizon Sport l'emporter sur le FC Belep Mondor 4-2 au terme d'une rencontre à rebondissement d'Imbéa et Belep Mondor. Donc les deux équipes de promotion honneur voient l'aventure s'arrêter pour laisser deux pensionnaires de l'élite continuer jusqu'au dernier duel pour le titre. La finale se disputera le 12 septembre prochain, toujours sur la pelouse du stade Noumadelle.
Le rendez-vous est pris du football encore en métropole avec la deuxième journée de Ligue 1 qui se poursuivra la nuit prochaine. Strasbourg recevra Lens, ce sera à partir de 2h15 du matin, puis à 5h45, 4 matchs en simultané. Auxerre-Angers, Brest-Toulouse, Lorient-3 et Lyon-Le-Havre. Cette journée avait débuté ce matin avec le match nul entre Lille et le PSG. 2-2 avec un scénario encore foufou. Paris était mené 2-0 jusqu'à la fin du temps réglementaire avant que Vitinha et Marquinhos n'égalisent dans le temps additionnel. Les Parisiens nous avaient déjà fait le coup il y a une semaine en allant arracher le match nul à Rennes le week-end dernier, 2-2 déjà. En rugby, rappelons que les Blacks disputent un nouveau test match face aux Sud-Africains. Rencontre à suivre à partir de 2h10 du matin, ce sera la nuit prochaine. La semaine dernière, les Néo-Zélandais s'était imposé sur les terres des Springboks 33-16. Le sport mécanique également ce week-end avec en MotoGP les pilotes qui sont en Espagne pour le Grand Prix d'Aragon. L'Italien Marco Bezzecchi a signé le meilleur temps des essais libres devant les Espagnols Alex et Marc Marquez, les deux frangins. Pour son retour sur la piste, le tricolore Johan Zarco a signé le 10e chrono. L'autre Français en lice, Fabio Quartararo, termine lui 14e. Qualification et course sprint à suivre ce soir. La course principale, ce sera demain à partir de 23h, heure de Nouméa. Et puis en rallye, c'est la 11e manche du championnat du monde qui se dispute au Paraguay. Sébastien Ogier a d'ores et déjà été contraint à l'abandon dès la 3e spéciale pour un problème mécanique. C'est le Néo-Zélandais Aiden Paddan qu'on avait vu souvent en Nouvelle-Calédonie sur les pistes de rallye de Nouvelle-Calédonie. Aiden Paddan sur Hyundai qui mène le classement après 5 spéciales sur les 22 au programme du week-end. Terminons ce journal avec la météo.
Socapor vous présente la météo. Socapor, le spécialiste sol et mur depuis 1971. Showroom sol et bain à Ducos. Magasin peinture à Ducos et Enguea. Socapor, deux spécialités, une même exigence depuis plus de 50 ans.
Et les couleurs du ciel, c'est avec vous ce soir Ismaël.
Et on commence avec aucune vigilance particulière.
Ah oui, j'ai oublié de vous le dire, il n'y a pas de vigilance.
Voilà, ça, c'est pas mal du tout.
Passer à autre chose, regardez
déjà la nuit.
J'allais
dire qu'on allait enchaîner un petit peu avec les bonnes nouvelles en plus des soldes. Aujourd'hui, ce soir, la côte ouest et Loyauté gardent un ciel passagèrement nuageux ou une petite averse est possible. Ailleurs, le ciel est en revanche bien étoilé. Le vent de sud à sud-est se maintient entre 15 et 20 nœuds sur le nord-ouest, la pointe nord et les Loyautés. Sur le sud-ouest, il faiblit. Autour des 10 nœuds, les températures minimales de la nuit, elles restent fraîches et en dessous des normales de saison. Elles s'échelonnent de 16 à 19 degrés près des côtes et de 11 à 15 degrés dans l'intérieur et aux îles.
Demain matin, Ismaël ?
Eh bien, sur le sud-ouest, la pointe sud et le sud des Loyautés, le ciel sera nuageux et quelques averses seront possibles ici ou là. Ailleurs, en revanche, le soleil brillera généreusement. Le vent s'orientera au sud-est entre 10 et 15 nœuds en général et souvent moins sur l'est où il soufflera d'est-sud-est de 5 à 10 nœuds.
Et demain après-midi, alors le soleil va rester bien présent sur le nord-ouest. Le nord des Loyautés, mais ailleurs, ça va se gâter.
Et oui, les nuages qui domineront avec encore des averses qui remonteront notamment sur le sud-ouest et d'autres qui se développeront sur le relief et se décaleront sur la côte est. L'alizé du secteur sud-est se renforcera quant à lui autour de 15 nœuds, localement 15 à 20 nœuds sur le nord-ouest et sur la côte est, il restera plus faible et proche de 10 nœuds. On termine Lionel avec les températures maximales qui évolueront peu et seront comprises entre 22 et 25 degrés.
La plus grande météo de toute l'histoire a été signée Ismaël. Merci à vous. 18h14, c'est-à-dire pratiquement 18h15. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Votre prochain rendez-vous avec l'info, ce sera à 19h. J'aurai grand plaisir à vous retrouver. Rappelons que ce journal sera bientôt disponible en réécoute sur notre site internet, le www.rrb.nc. Bonne soirée, bon week-end, à tout à l'heure.
Merci beaucoup, c'était Lionel Sabot.